Nous avons commencé notre série d'études sur les psaumes. Alors on a chacun d'entre nous a sa technique hein, pour trouver quel psaume il va partager avec vous. Donc Yann a fait facile, il a pris les deux premiers pour introduire. Luc a été plus imaginatif, lui il a cherché le psaume qui lui paraissait le plus essentiel, on va dire. Et ben moi j'ai choisi aussi la facilité, je vais prendre le psaume 3, je vais continuer. Alors je vais le lire dans la traduction du Semeur. Chaque traduction est assez différente hein, sur les psaumes. Hein. Yann l'a expliqué, l'hébreu des psaumes est pas toujours facile à traduire. Et donc il y a quelques variations suivant les traductions. Mais bon, donc moi je lis dans la traduction du Semeur, donc psaume 3. Donc psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui se sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ce psaume, c'est un psaume de confiance. Un psaume où David exprime le secours qu'il trouve auprès de Dieu. Donc, l'introduction nous dit que David a écrit ce psaume au moment où il était poursuivi par Absalom. Donc, vous connaissez cette histoire. Vous savez que à ce moment-là, une partie du peuple s'est détournée de David et s'est alliée avec son fils. Ses ennemis qui étaient cachés jusque-là se manifestent et vont en profiter pour insulter David, son propre fils. Veut le tuer. Et David, donc, va, dans ce psaume, exprimer sa confiance en Dieu, va témoigner aussi de qui est Dieu pour lui. Et dans ce psaume, on va voir aussi qui est David pour Dieu. On va voir aussi en quoi David est différent de nous, en quoi sa situation est différente de la nôtre, et aussi en quoi le Dieu de David est différent du nôtre. Et puis on va voir aussi que, malgré ces différences, en quoi et David et son Dieu nous concernent et nous rejoignent. Quand on lit les psaumes, on peut s'attacher à l'impression générale ou à l'enseignement ou à ce qu'on en retire d'un point de vue global. Et puis aussi, on peut le lire en s'attachant aux mots. Là, c'est un psaume assez court. Et on peut se poser des questions sur chacun des mots qui ont été utilisés. Et certains de ces mots vont nous toucher. Peut-être chacun différemment. Mais les mots qu'utilise David vont résonner d'une façon particulière. Et moi, dans ce psaume, il y a certains mots qui m'ont touché. Le premier, c'est quand David constate l'opposition qui est face à lui, et quand il dit « si nombreux sont ceux qui s'opposent à moi, si nombreux ceux qui pensent qu'il n'y a aucun secours pour moi auprès de Dieu. Si nombreux ceux qui pensent que Dieu ne peut rien. Si nombreux ceux qui pensent que Dieu ne veut rien. C'est notre société, ça. Si nombreux sont ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, bien que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que Dieu ne nous concerne pas, si nombreux autour de nous, ceux qui pensent ça. Combien est dominante cette pensée dans notre société. Et qu'on le veuille ou non, cette opinion générale, ce regard que porte la majorité sur notre Dieu, sur notre foi, qu'on le veuille ou non, ça pèse sur nous. Ça appuie sur notre tête, ça appuie sur nos épaules, de sentir combien sont nombreux ceux qui pensent que ce qui est fondamental pour nous n'a aucune valeur. Le deuxième mot qui m'a marqué, c'est « pour moi ». Ce « pour moi », il va revenir plusieurs fois. Il apparaît dans ce premier passage qui parle de l'opposition. Il n'y a aucun secours pour moi auprès de Dieu. Ce « pour moi », c'est moins une référence à une oppression extérieure qu'ici à une oppression intérieure. Dieu ne peut rien pour moi. Je suis trop loin de Dieu pour espérer son secours. Je suis trop loin de Dieu pour revenir vers lui. Pour moi, Dieu est trop loin. C'est ce qu'on se dit parfois. C'est ce qu'on vit parfois. Parfois, c'est ce qu'on entend aussi dans l'Église. On peut entendre ce genre de choses exprimées d'une façon ou d'une autre. Et David va répondre. Il va répondre à cette oppression extérieure, intérieure. Il va répondre. Et il va d'abord dire qui est Dieu. Qui est Dieu pour lui? Il va dire Dieu est un bouclier. Un bouclier pour moi. Un bouclier, qu'est-ce que c'est? Un bouclier, c'est d'abord ce qui prend les coups à ma place. Quand je suis attaqué, c'est le bouclier qui prend les chocs, qui prend les coups d'épée, qui prend les impacts des flèches. Et Dieu est cela pour moi. Et c'est vrai. Peut-être même plus pour moi que pour David. Le Christ a pris les coups qui étaient pour moi. Et puis le bouclier, c'est celui qui protège. Celui qui se tient devant moi. Dieu est celui qui nous entoure, celui qui garde notre départ et notre arrivée, celui qui est devant et qui est derrière. Et David va aussi exprimer que Dieu est son soutien, celui qui garde, celui qui est derrière lui, celui qui le pousse et qui le protège dans son dos, son bouclier. David nous dit aussi « Dieu est ma gloire, celui qui relève ma tête ». Et là, on peut voir peut-être une première différence avec David. Dieu est la gloire de David. David est aussi la gloire de Dieu. David est le roi d'Israël, celui qui a été choisi par Dieu, celui qui a été oint devant le peuple. David est celui qui porte l'honneur de Dieu, qui porte sa promesse, qui porte son nom. David, il est le témoin vivant de la fidélité de Dieu, le témoin vivant aussi de sa puissance. Sa position est différente de la nôtre, pas si différente, parce que nous aussi, nous pouvons dire que Dieu est notre gloire si nous la lui confions, si nous considérons que c'est la grandeur de Dieu qui importe le plus dans notre vie. Et puis, la deuxième réponse de David, après avoir dit qui était Dieu et qui était Dieu pour lui, David va dire à voix haute, je crie vers l'Éternel. À voix haute. Quand tous autour de nous pensent que Dieu n'a aucune valeur, aucune pertinence, David nous propose de crier à voix haute, et de dire, pour tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui nous entendent, de dire qui est Dieu pour nous, de dire à voix haute que nous espérons en lui, de dire à voix haute que nous comptons sur lui, de dire à voix haute que Dieu est notre espérance. Et David relève la tête. Cette oppression qui appuie sur nous, qui appuie sur notre tête, qui a tendance à nous faire courber le dos, à nous faire rentrer dans le rang, à nous faire taire. Eh bien, la deuxième façon de lutter contre elle, c'est de dire et d'affirmer qui est Dieu. Et David s'attend à Dieu. Dieu de sa montagne sainte m'exaucera. Et en lisant cette phrase, je me suis demandé d'abord de quelle montagne sainte il était question. Au début, je pensais que c'était du Sinaï dont parlait David. En fait, les psaumes font davantage référence à Sion, à la montagne, au mont qui est dans Jérusalem et sur lequel va-t-il le temple. David s'attend à ce que Dieu réponde depuis cette montagne. Et ça montre que l'image que David a de Dieu, c'est celle d'un Dieu qui est loin. Dieu parle depuis sa montagne. David va même un verset plus loin interpeller Dieu et lui dire « Lève-toi, lève-toi ». Dans le psaume 2, il parle de Dieu comme étant assis sur son trône dans le ciel. Et cette image d'un Dieu lointain, d'un Dieu assis, je me suis demandé si c'était une vision juste de Dieu. Et elle est probablement juste pour David. Mais je ne crois pas qu'elle soit juste pour nous. Parce que Dieu s'est révélé d'une autre façon pour nous. D'une autre façon que celle d'un Dieu lointain assis sur son trône et qui juge la terre. Cette réalité-là existe, bien sûr, mais pour nous, Dieu s'est révélé comme un Dieu qui marche, pas comme un Dieu assis, comme un Dieu qui marche à nos côtés. Le Christ a marché à côté de ses disciples. Il a été proche d'eux. Et cet au secours de David m'a fait penser à un autre au secours qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Un disciple a crié au secours. Est-ce que vous arrivez à trouver à quoi je fais référence? Pierre sur l'eau, exactement. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 14. Et Pierre va crier lui aussi, donc vous connaissez le contexte, hein. Jésus, donc les disciples sont sur la barque au milieu du lac. Jésus va à leur rencontre en marchant sur l'eau et les disciples ont peur. Et Jésus leur dit, donc je lis ça au chapitre 14 donc de Matthieu, au verset 27, Jésus leur parla, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, » lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Et immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Le Dieu que connaissait David s'est révélé d'une autre façon. D'une façon où, quand nous crions au secours, la main du Christ est à côté de nous. La conséquence de la relation que Dieu a avec David et que David avec Dieu. On la trouve donc au verset 6, et c'est pour cette raison que ce psaume est connu et qu'il est souvent cité. Je me couche et je m'endors, je me réveille, et l'Éternel est mon soutien. Une des façons de le traduire. La paix de Dieu, au moment où nous sommes le plus faibles, au moment où les pensées s'agitent dans nos cœurs, dans nos têtes, où ce qui n'a pas été réglé revient, ou il est difficile de choisir à quoi on va penser au moment où on s'endort, au moment où on fait le bilan de sa journée, au moment où parfois il est difficile de s'endormir. Je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Je ne crains pas la multitude qui est postée autour de moi. Savoir qui est Dieu, pour moi, permet de chasser mes craintes. C'est une guérison de la raison, une guérison de la façon dont, dont je pense, dont je, dont j'évalue les dangers. Dieu guérit mon intelligence. Ma relation avec lui guérit cette intelligence. Mais ce texte va un petit peu plus loin. Je m'endors et je me réveille en paix. J'ai dormi et je suis resté en paix. Et quand je me réveille, rien ne vient m'assaillir. Dieu a guéri son cœur. Je vais employer un terme un peu psy que je maîtrise pas forcément, mais tout ce qui était inconscient, tout ce que je n'ai pas pu régler avec ma raison, eh ben même ça, Dieu l'a réglé. Les rêves ne sont pas venus m'assaillir. Quand je me réveille, je suis pas troublé par tout ce qui s'est agité dans mon cœur pendant la nuit. Je me réveille en paix. Dieu a guéri non seulement mon intelligence, il a aussi guéri mon cœur. Parce que Dieu est mon soutien. C'est ce que dit David. Et quand on pense à son soutien, on peut penser bien sûr à celui sur qui je me repose, celui à qui je peux sur qui je peux décharger mes fardeaux, et c'est ce que nous vivons. Mais un soutien, c'est un peu plus que ça. Un soutien, c'est aussi celui qui soutient mes actions, qui soutient ma vie. Et là, David a une position qui est un petit peu différente de la nôtre, simplement parce que sa mission est différente. Sa promesse est différente. Et David la connaît, cette promesse. Dieu lui a promis qu'il serait roi d'Israël. Il lui a promis qu'il affermirait son trône. Il lui a promis que ses descendants régneraient même pour l'éternité. Dieu l'a choisi et l'a placé dans cette position que David ne cherchait pas. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a élu et qui l'a placé là. Et David sait qu'il, comme je le disais tout à l'heure, qu'il représente le choix de l'Éternel. Comme Israël, il porte son nom. Et David sait que l'Éternel va tenir sa promesse. Et c'est ça qui lui permet d'être serein. C'est qu'il sait que l'Éternel tient sa promesse. Cette promesse, elle est différente pour nous. Nous ne sommes pas rois d'Israël, même si nous sommes rois en Christ. Notre promesse, c'est que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Quand je me couche, je sais qui je suis, je sais qui est Dieu. Quand je me réveille, mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu est toujours là. Je suis toujours son enfant. Et je sais que rien ne pourra changer cet état de fait. Je suis son enfant. Et je le suis pour l'éternité. Et je peux affronter le sommeil, je peux affronter cette perte de contrôle en sachant que c'est Dieu qui est au contrôle et que c'est Dieu qui me tient dans sa main et que sa promesse s'accomplira. À la fin de ce psaume, David appelle Dieu au secours et il a ces paroles qu'on va retrouver de temps en temps dans les psaumes, cette imprécation sur ses ennemis et sur les méchants. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. Et ces imprécations sont toujours un peu difficiles à écouter, à entendre, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On se souvient que le Christ nous a enseigné de prier pour nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent. Donc c'est difficile de faire le lien avec des paroles comme celle-là. Personnellement, je me rappelle aussi des erreurs de l'Église, je veux dire. Je me rappelle que lors de certaines guerres, eh bien les prêtres allaient bénir les canons d'un côté, allaient bénir les canons de l'autre côté et appeler à la mort des ennemis qui étaient de l'autre côté, mais mais chacun revendiquait Dieu comme étant de son côté, évidemment. Et on se demande comment on peut prier justement en appelant à la malédiction sur ses ennemis. Et là, je pense que c'est important de se rappeler que la position de David était particulière. Comme je l'ai dit plusieurs fois, David est le roi d'Israël, celui qui a été choisi par Dieu. Et David sait cela, il en a une conscience profonde. Et ses ennemis ne sont pas simplement ses ennemis à lui. Ses ennemis, ce sont ceux qui s'opposent au Dieu vivant. Et quand, en tout cas je le lis comme ça, quand David appelle Dieu à briser les dents des méchants, briser les dents, briser l'agressivité, briser les instruments d'agression et de mort de ces personnes-là, David prie pour que les ennemis de Dieu soient rendus impuissants. Dans ce psaume, David ne prie pas comme un homme qui craint pour sa vie. Il ne prie pas pour que Dieu détruise ses ennemis à lui. David prie depuis ce qu'il est. Il prie en tant qu'un homme qui a été choisi par Dieu, qui a une mission aux yeux de Dieu, une mission que lui a confiée son Dieu. Il est roi d'Israël, il est celui qui témoigne de qui est Dieu et qui témoigne devant le peuple, devant le monde entier. Il termine d'ailleurs ce psaume en appelant, en faisant un appel à la foi, un appel à la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui lui appartiennent. David entre dans son identité en Dieu. Il accepte sa place, il accepte son chemin, il accepte sa mission, ce que Dieu lui a confié, et il prie depuis cette identité, dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux hommes, dans sa responsabilité de dire et de témoigner de qui est Dieu. Et pour moi, c'est ce que je retire de ce psaume. Cet encouragement à trouver en Dieu la paix et le repos face évidemment à tous les défis, à toutes les difficultés que je peux rencontrer, mais à faire face à ces difficultés en prenant un peu de recul et en me souvenant de qui je suis devant Dieu. Parce que bien sûr, je ne suis pas roi d'Israël, mais je suis enfant de Dieu. Je suis témoin du Christ. Je suis son disciple, celui qui marche avec lui, celui qui témoigne de qui il est pour moi. Et quand je m'endors, je sais qui je suis. Je sais que je suis son enfant. Quand je me réveille, je sais qui est Dieu. Il est mon Père, et pour l'éternité. Alors Dieu guérit. Il guérit mes pensées, la façon dont je vois ma vie et l'avenir. Il guérit aussi mon cœur et toutes les craintes que je pourrais garder. Alors que le Seigneur vous apporte sa paix et son repos, comme il les a donnés à David. Merci.